VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 19 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, le président Idriss Déby a décrété l'état d'urgence dans l'est du pays après des violences intercommunautaires meurtrières.
Le Soudan a célébré hier l'accord historique signé la veille par les dirigeants militaires et la contestation en vue de la transition vers un pouvoir civil.
En Afghanistan, un kamikaze du groupe djihadiste État islamique fait 63 morts lors d'un mariage à Kaboul, alors que l'on espère un accord imminent entre les États-Unis et les talibans.
À Hong Kong, s'est tenue hier la plus grande manifestation pro-démocratie depuis plusieurs semaines.
Le pétrolier iranien retenu à Gibraltar depuis le 4 juillet a appareillé dimanche après le rejet de la demande américaine de saisie du navire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, le président Idriss Déby a déclaré l'état d'urgence hier dans deux provinces de l'est du pays. Il a aussi réclamé le désarmement des civils après des affrontements entre communautés qui ont fait des dizaines de morts en août. Des détails avec Jean-Roger Bian.
L'état d'urgence est déclaré pour 3 mois dans les provinces du Sila et du Wadaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Dès maintenant, nous allons déployer des forces militaires qui vont assurer la sécurité de la population dans la zone, a assuré le président Déby en déplacement dans le Sila. Il a également ordonné le désarmement de tous les civils de la zone qui ont des armes entre les mains. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de bilan plus précis. Depuis le début de l'année, ces violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné d'autres régions du Tchad. Le président Déby a plus particulièrement incriminé l'afflux d'armes venues des pays frontaliers du Tchad en proie à de graves conflits comme la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. Ces situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs se retrouvent aussi dans plusieurs autres pays africains, notamment au Nigeria ou en Centrafrique.
En République démocratique du Congo, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale qu'une insécurité prévaut dans plusieurs quartiers de la ville et qu'on entend depuis 4 nuits pendant au moins 4 heures des crépitements d'armes automatiques. Narval Mabila impute ces tirs à des hommes armés qui entrent dans les maisons pour commettre divers crimes, dont des meurtres et viols que l'on déplore chaque matin.
Au Nigeria, 4 soldats ont été tués hier dans le nord-est du pays lors d'une attaque attribuée à des djihadistes du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, issus d'une scission de Boko Haram. Selon l'AFP, les assaillants ont ouvert le feu sur une patrouille militaire dans le village de Mogoula, près de la frontière avec le Cameroun. Ces dernières semaines, les combattants de ce groupe ont renforcé leur présence dans des zones proches de cette frontière, un secteur contrôlé par les hommes fidèles au leader historique de Boko Haram, Aboubakar Shekau.
En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a été élu dimanche à la tête de son parti, le COGEP, à l'issue d'un premier congrès tenu à Abidjan. L'ancien chef des jeunes patriotes proche de l'ex-président Laurent Gbagbo a été récemment acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il réside à La Haye depuis son acquittement dans l'attente d'un éventuel appel de la procureure. Charles Blé Goudé nourrit lui-même des ambitions présidentielles.
Le Soudan s'est engagé concrètement hier dans sa phase de transition vers un pouvoir civil qu'il espère apaiser avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation. Thomas Kamilindi.
Samedi, des foules en liesse ont rempli les rues de Khartoum après la signature de l'accord. Ce compromis entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation prévoit une transition de 39 mois qui doit être menée par un conseil souverain composé de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de nombreux dignitaires étrangers, le plus grand événement à être organisé depuis des années dans la capitale soudanaise. Plusieurs pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un nouveau Soudan après les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis que Washington soutiendrait l'établissement d'un gouvernement qui protège les droits de tous les Soudanais et mène vers des élections libres et équitables. Pour l'analyste soudanais Abdelatif Al-Bouni, le plus grand risque dans l'immédiat pour la transition est la volonté de se venger de certains. Plusieurs étapes précéderont les élections prévues en 2022. Le gouvernement doit, lui, être formé le 28 août avec 20 membres au maximum pour permettre aux nouvelles institutions d'affronter les principaux défis du pays, en priorité la relance d'une économie en crise.
Le navire humanitaire Ocean Viking n'a pas encore trouvé un port sûr pour débarquer 356 migrants secourus pour les premiers il y a 10 jours. En attendant, ces migrants ont été invités à dessiner d'un trait de crayon et quelques couleurs. Ils ont consigné leurs pires cauchemars et leurs meilleurs souvenirs. Eric Manera-Kidza.
Les dessins accrochés sur le pont de l'Ocean Viking racontent les vies malmenées des migrants. Les coups en Libye, la guerre au Darfour, mais aussi le village familial dans le sud du Soudan, un chanteur pop et le baobab emblématique du Sénégal et des bateaux salvateurs. Haroun Mohamed détaille ces images. Le Darfour en feu qu'il a quitté en 2011 pour gagner Khartoum puis la Libye, les avions qui pilonnent sa maison, le toit en flammes, la famille qui s'enfuit, le croquis d'Adam, 18 ans, qui rêve avec sa haute stature de devenir footballeur professionnel, montre un petit bonhomme accroché au plafond, pieds et poignets liés, tandis que deux hommes le frappent à toute volée devant d'autres prisonniers alignés. Al-Hadin a reproduit une carte de Libye rouge sans barrer des lettres Hell, l'enfer. By Hell, serait-il en faisant le V de la victoire. Ezo préfère se souvenir des belles choses, son village bucolique dans le sud du Soudan, au bord d'un lac où il a appris à nager, non loin des monts Nouba, les pêcheurs, sa grand-mère, la cruche sur la tête, les vaches. Les dessins racontent aussi leur sauvetage et leur arrivée sur le grand bateau rouge. Ils montrent également des mères qui accueillent leurs enfants, des images qui trahissent le mal du pays, la nostalgie de l'enfance et du temps de l'insouciance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afghanistan, retour sur l'attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique et qui a fait au moins 63 morts et 182 blessés samedi soir lors de festivités de mariage à Kaboul. Cet attentat a eu lieu au moment où la population afghane espère un accord imminent entre les États-Unis et les talibans. De nouveau, Eric Manirakidza.
C'était le chaos, une scène de massacre et de carnage, a dit d'une voix tremblante un blessé de 22 ans, interrogé sur son lit d'hôpital. Les participants dansaient et faisaient la fête quand l'explosion s'est produite, peu avant 18h30 en temps universel, a témoigné un autre blessé par des éclats au bras et à l'abdomen. Plus de 1000 personnes participaient aux festivités. Les talibans, qui livrent une guerre d'insurrection depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2001 par une coalition menée par les États-Unis, ont rapidement nier toute implication. La branche afghane de l'État islamique a revendiqué dimanche après-midi l'attentat. Ces islamistes et radicaux sunnites ont pris à plusieurs reprises pour cible la communauté chiite d'Afghanistan dont les familles des mariés faisaient partie. De nombreux messages de condamnation ont afflué des ambassades présentes en Afghanistan, des missions de l'OTAN et de l'ONU. Le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, a déclaré que cette attaque odieuse et inhumaine est bien un crime contre l'humanité. La population afghane, exaspérée par la violence aveugle, espère la conclusion d'un accord imminent entre les États-Unis et les talibans qui ouvrirait la voie à des négociations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe insurgé.
À Hong Kong, répondant à un appel du Front civil des droits de l'homme à un rassemblement rationnel et non violent, des centaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont envahi hier les rues de la ville. Cet appel visait à couper court aux accusations de terrorisme qui ont émané du gouvernement central chinois. Les manifestants ont ainsi bravé la police et des trombes d'eau pour montrer que leur mouvement reste populaire, en dépit des violences et des menaces d'intervention de Pékin.
L'Iran a affirmé aujourd'hui avoir mis en garde Washington contre une saisie de son pétrolier qui a quitté la veille les eaux du territoire britannique de Gibraltar, où il était retenu depuis le 4 juillet. Ce serait une erreur qui aurait de graves conséquences, a déclaré à la presse Abbas Mousavi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Égypte veut faire passer la production de pétrole et de condensat de 630 000 à 690 000 barils par jour avant la fin de cette année, rapporte l'agence Ecofin. Cette augmentation sera assurée par l'entrée en production dans quelques semaines de nouveaux actifs mineurs et surtout de la montée en puissance de certains déjà en production. Le pays, qui est devenu autosuffisant en gaz naturel, a introduit de nouvelles incitations fiscales pour attirer des investissements et mettre fin à ses importations de produits pétroliers. Un tribunal londonien va autoriser l'entreprise gazière P&ID à commencer la procédure de saisie de près de 9 milliards de dollars d'actifs contre les autorités nigérianes après l'échec d'un projet gazier au Nigeria. Ce montant représente environ 20% des réserves de change du pays. En 2010, P&ID et le Nigeria avaient conclu un accord pour un projet gazier. Terminons cette minute éco avec le détaillant de mode sud-africain TFG qui veut poursuivre l'an prochain ses activités au Kenya et au Ghana, où il compte au moins 6 magasins sur chaque marché. TFG prévoit aussi d'ouvrir en septembre en Afrique du Sud un magasin Sportscène de plus petit format, doté de divertissements tels qu'un terrain de basket et un kiosque à DJ afin d'attirer les millennials, ces jeunes âgés de 15 à 25 ans, et les éloigner des jeux en ligne.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Jeux africains, le Maroc accueille l'Afrique du sport.
Oui, la 12e édition, principalement à Rabat, qui va abriter plus de 6000 athlètes venus de tout le continent. Au programme, 26 sports, 29 disciplines et des possibilités de qualification pour les JO de Tokyo en 2020. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce lundi, même si quelques compétitions ont déjà débuté. Samedi, les premières médailles ont été distribuées. Les Jeux africains sont organisés tous les 4 ans. Le Congo avait accueilli la première édition en 1965 et la dernière en 2015, tandis que celle de 2023 sera organisée par le Ghana.
Déjà vendredi, on a eu droit à la première journée des matchs de poule en football.
Chez les femmes, le Maroc, pays hôte, a réussi son entrée en venant à bout de l'Algérie 3-2. Au niveau des hommes, dans le groupe A, le Nigeria et le Burkina Faso ont partagé les points, tandis que le match entre le pays hôte, Maroc et l'Afrique du Sud a été reporté pour une raison non communiquée. Dans la poule B, le Ghana profite du nul blanc entre le Sénégal tenant du titre et le Mali pour prendre la première place suite à sa victoire 2-1 devant le Burundi.
Football toujours, les championnats nationaux ont repris leurs droits un peu partout en Afrique.
Et c'est l'Algérie qui a donné le coup d'envoi avec la victoire du champion sortant, l'USM Alger 2-1, devant l'entente de Sétif, reprise également en RDC. Et pour cette première journée, le Daring Club Motéba Pembe a été accroché à domicile 0-0 par Lumumbashi Sport. Le lendemain, l'ASV Club n'a pas raté son entrée malgré le départ de quelques joueurs. Les Dauphins Noirs ont corrigé l'AS Simba 4-0. Demain mardi, le champion en titre, le TP Mazembe, démarre par l'Olympique Club Bukavu Dawa au stade Kibasa Maliba.
Le championnat a repris également au Burkina Faso et le champion en titre a été tenu en échec.
Oui, Raimo FC a été accroché 0-0 par l'Union Sportive de Ouagadougou. Même score entre Salitas et le Rai Club de Kadiogo. Et puis, en Côte d'Ivoire, le champion sortant, la société Omnisport de Lamé a ouvert le bal à Williamsville. Score final 2-2. La SEC Mimosa joue ce lundi Racing Club d'Abidjan. Et puis mercredi, l'Africa Sport va clôturer cette première journée avec la réception d'Ambengourou.
Au Mali, après 2 ans d'interruption, le championnat reprend ses droits.
23 clubs sont repartis en 2 poules. 12 dans le groupe A et 11 dans le groupe B. En ouverture, sans trembler, le stade malien se fait respecter face au Centre Salif Keita, score 2-0. Une belle entame, contrairement à son grand rival, le Djoliba AC, tenu en échec 2-2 par l'AS Performance à Koulikoro. Le derby local a tourné à l'avantage du CS Togo Olofila face au Niana 2-0. A noter que seuls les premiers et deuxièmes de chaque poule joueront le carré d'As et les 6 derniers à l'issue des playoffs seront relégués en D2.
Basketball pour terminer, Afrobasket 2019, le Nigeria garde son titre face au Sénégal.
Malgré le soutien de leur public de Dakar et une superbe fin de match, les Lions du Sénégal se sont inclinés en finale face aux Nigérians 60-55. Les 10 Tigresses ont eu bien plus de mal qu'il y a 2 ans, mais elles conservent leur couronne face au même adversaire. Le Mali finit 3e suite à son succès 66-54 face au Mozambique. L'Angola, victorieuse de la RDC 68-48, prend ainsi la 5e place. Ces 6 équipes disputeront le tournoi de préqualification pour les Jeux Olympiques de 2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En France, la police de l'air et des frontières à l'aéroport international Charles de Gaulle a interpellé l'épouse de l'homme politique malien Yé Samaké pour détention d'armes à feu avec munitions dans son bagage à main. Cette affaire expose les défaillances sécuritaires à l'aéroport Modibo Keïta Bamako-Senou. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
De l'aéroport international Bamako-Senou à Roissy Charles de Gaulle, une arme se trouvait dans les bagages cabine de la ressortissante indienne et épouse de Yé Samaké. Elle a été arrêtée le 12 août dernier par les fonctionnaires de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle parce qu'elle possédait un pistolet chargé. Abdraman Diallo Dikaou, porte-parole de la famille Samaké.
La famille Samaké était en instance de déménagement à Boulefebrou à la veille de la fête. Madame Samaké, comme elle l'a dit, elle a soustrait l'arme de la portée des enfants. Elle l'avait mis dans son sac à main. Malheureusement, la nuit de la fête, elle devait voyager sur les États-Unis. Elle n'a pas eu l'occasion de l'enlever. Cela a pu passer à l'aéroport de Senou. C'est malheureux, c'est regrettable. Ce n'est qu'arrivé en France à l'aéroport Roissy que cela a été découvert.
L'épouse de l'homme politique malien était en transit à l'aéroport parisien. Elle venait de Bamako avec ses 2 enfants et son arme dans son sac. Elle a passé sans difficulté le contrôle de sécurité à l'aéroport du Mali. Mamoutou Malé, agent de sécurité.
Comment ça fait rentrer ici? Et comment se peut-il qu'on peut franchir une arme ici à l'aéroport pour arriver en France? Bon, ça fait rentrer. Donc, ce que je pense, je parle aux autorités telles que les sécurités qui se sont installées au niveau de l'aéroport et ils doivent vraiment augmenter leurs efforts pour puissent contrôler certaines choses comme ça, là, vraiment.
Marisa Samaké, épouse Yé, a été jugée le 14 août dernier au tribunal de Bobigny. Elle a expliqué qu'elle tenait l'arme éloignée de ses enfants. Mais le juge l'a condamnée à 8 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende. Mamadou Damélé, vigile.
Il y a eu quelque part une défaillance de la part de nos forces de sécurité. Moi-même, en tant qu'agent de sécurité, ce que je vais dire à nous, les agents, de redoubler d'efforts, d'être trop vigilants. Si c'est la femme d'un responsable, un haut cadre de ce pays, c'est une honte. Le Mali, sous cette tension de terrorisme-là, ça doit être puni, hein, vraiment.
Dans un Mali en pleine crise sécuritaire, avec le terrorisme, dire que l'aéroport de Bamako-Senou n'est pas sécurisé révolte certains Maliens comme Oumar Diakité.
Ce comportement de nos agents de sécurité est inadmissible, mais cela ne doit pas nous surprendre. Ils ne font pas leur boulot, ils n'aiment que l'argent. On peut prendre l'aéroport Bamako-Senou sans problème. Au Mali, on ne sécurise que le président Ibeka. Sinon, tout le reste, il n'y a aucune sécurité.
Après le jugement, Marisa Samaké et ses enfants ont été libérés. Ils sont rentrés à Bamako le samedi 17 août 2019. Abdraman Diallo Dikaou.
Ce qui est important de souligner, c'est que Marisa Samaké n'avait aucune intention criminelle. Sa bonne foi ne fait aucun doute. C'est vrai, arrivé à l'aéroport, les contrôles doivent être un peu plus pointus. Nous regrettons que cela n'a pas été fait. Si on l'avait découvert l'arme à l'aéroport de Bamako-Senou, cela aurait été souhaitable. Nous regrettons surtout que cet malheureux incident ait pu un peu entacher l'image des services aéroportuaires du Mali.
Suite à cet incident, le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection, dit que des dispositions ont été prises. Nous avons immédiatement co-présidé une réunion avec tous les acteurs de l'aéroport pour faire le point et prendre des dispositions pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Fin de citation. Bamako, Kassim Traoré, de VOA Afrique.
<t'-> Au Nigeria, le retour surprise vendredi de Cheikh Ibrahim El-Zakzaki, chef du mouvement chiite du pays, fait craindre un regain de tension entre les forces de l'ordre et la communauté chiite. Ibrahim El-Zakzaki, qui s'était rendu en Inde pour des soins médicaux, aurait écourté son séjour suite à une incompréhension entre lui et son gouvernement. Gilbert Tamba revient sur les réactions depuis le retour du leader chiite au Nigeria.
Le dirigeant chiite nigérian Ibrahim El-Zakzaki a effectué un retour inattendu dans le pays 3 jours après son arrivée en Inde pour y recevoir des soins médicaux. El-Zakzaki aurait refusé les traitements dans un hôpital indien lorsque son équipe médicale préférée, dit-on, a été changée. La réaction d'Ibrahim Gamawa, porte-parole du mouvement islamique au Nigeria.
It is funny.
C'est regrettable de voir un arrangement fait depuis le Nigeria changer après l'arrivée du Cheikh en Inde, où il s'est retrouvé entre les mains de médecins dont certains étaient même hébreux. Ces médecins sont tous des agents israéliens et c'est la raison pour laquelle le Cheikh a décidé de revenir au Nigeria.
Au sein de la société civile, on craint une reprise des violentes manifestations des membres du groupe chiite qui ont déjà fait des victimes et des dégâts matériels importants. Awal Moussa Rafsanjani dirige le CISLAC.
This whole saga on the Azizeki treatment.
Toute cette histoire autour du traitement de Zakzaki et du refus du gouvernement de respecter la décision de la Cour de le libérer fait réellement monter la tension. Ce refus est aussi à l'origine des problèmes entre le gouvernement, Zakzaki et son groupe, ainsi que d'autres Nigériens qui veulent s'assurer du respect de la loi au Nigeria.
Même préoccupation de Deji Adeyinju, du groupe des Nigériens concernés.
La communauté des chiites est victime d'injustice au Nigeria. Plusieurs de ses membres ont été tués, plusieurs ont été enterrés dans des fosses communes. Même le gouvernement l'a reconnu dans l'un de ses rapports. Donc ça ne pose pas de problème que les membres du mouvement islamique au Nigeria, que les chiites protestent dans le pays. Mais ce que nous demandons toujours, c'est qu'ils manifestent pacifiquement. Nous soutenons une stratégie d'action de base non violente.
Le groupe des chiites persiste et dit avoir des moyens pour faire face au dernier développement concernant son fondateur, Ibrahim Gamawa.
Le premier moyen est de retourner devant la justice, le deuxième, et ce au même moment, est de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire manifester, et le troisième est de continuer à négocier avec l'aide des pays étrangers et en même temps auprès des sages qui sont sur place ici dans le pays.
En 2016, un tribunal avait ordonné la libération de Cheikh Ibrahim El-Zakzaki, mais les autorités d'Abuja ont refusé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, il y a eu des avancées prometteuses dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, avec de nouvelles techniques pour l'hospitalisation, l'isolement des malades et de nouveaux médicaments. Mais les traitements ne sont vraiment efficaces que si les patients sont pris en charge suffisamment tôt après l'apparition des premiers symptômes. Et l'épidémie continue de se propager en RDC. Elle a déjà fait plus de 1900 morts. Reportage à Beni de notre correspondante Patricia Huon.
Il y a une patiente à l'intérieur. Ça fait 6 jours qu'elle est là. On peut la voir même de l'extérieur, là. Cliniquement, elle va mieux. C'est pas comme à l'entrée.
À Beni, le centre de traitement Ebola peut accueillir une soixantaine de patients. 13 chambres d'urgence biosécurisées sont utilisées pour la première fois dans cette épidémie. Il s'agit de cubes de plastique qui permettent d'observer le patient de l'extérieur, de lui parler et même d'effectuer certains soins sans devoir entrer dans la pièce avec un équipement complet de protection. Cela permet aux proches d'apercevoir le patient et au personnel soignant d'être plus efficace, explique le docteur sympathique Kayani.
On peut suivre son état général de l'extérieur par le moniteur et aussi par la paroi plastique. Si par exemple je veux changer une perfusion, j'introduis mes mains, mes bras à l'intérieur de deux gants. On ne va pas porter toute une combinaison. Si les patients peuvent parler, ils peuvent dialoguer avec leurs familiers et ils le voient de l'extérieur. Ça rassure un peu le patient.
Des systèmes de réanimation et de nouveaux médicaments sont utilisés. Un essai clinique a été mené dans le centre de traitement Ebola de Beni. Il suggère que les patients traités avec deux des molécules pourraient avoir jusqu'à 90% de chances de survie s'ils sont pris en charge rapidement. Le docteur Modé Camara de l'ONG Alima a coordonné l'étude sur place.
En Afrique de l'Ouest, on n'avait pas cet appareillage, et ce qui permet d'avoir une visibilité directe sur le malade. Ce sont des soins intensifs. La mortalité avec le virus Ebola sans traitement spécifique était élevée. Mais maintenant, avec les médicaments, nous nous retrouvons avec un taux en deçà de 30%. Le premier, c'est un anticorps monoclonal issu d'un le sérum d'un survivant. Et le second, c'est encore des anticorps monoclonaux qui est très efficace sur le virus Ebola.
Le taux de guérison au centre de traitement est désormais de 60 à 70%. Aujourd'hui, 14 patients, hommes, femmes, enfants et un bébé, sont déchargés. Ils ont vaincu la maladie. Certains sourient et lèvent les bras en signe de victoire. D'autres semblent confus, inquiets. Pour beaucoup de survivants, le retour dans leur communauté est accompagné de stigmatisation.
Dans la communauté, on ne croit pas vraiment qu'une personne peut guérir d'Ebola. C'est un certificat de décharge pour dire que je suis guéri. On dit à la date d'émission de ces documents, les porteurs de ce certificat ne présentent pas de risque de contaminer d'autres personnes parce que ce test a été négatif pour la maladie à virus Ebola.
Même si les traitements s'améliorent, la méfiance et les rumeurs persistent. Beaucoup de personnes craignent de se rendre au centre de traitement. Le nombre de malades qui meurent chez eux reste important et la chaîne de transmission se poursuit. À Beni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
RDC toujours à Bukavu, au sud Kivu, la deuxième édition de la Foire internationale des arts et de la créativité s'est achevée ce dimanche après une semaine. L'occasion était belle pour valoriser les artistes locaux, nous dit notre correspondant Ernest Mouero.
C'est sur un podium installé au collège Alpha Djiri que des artistes ont fait leurs prestations durant toute la semaine. À l'occasion, des stands ont aussi été dressés pour des expositions. Alice Kajabika fait partie des exposantes.
Nous sommes venus d'abord nous vendre, nous en tant qu'Alka Multi Service, et aussi faire notre visibilité. Et puis c'était aussi une façon de se familiariser avec d'autres artistes, d'autres agences, ASBEL, entreprises et tout. C'est une façon aussi de nous détendre. Les amis montrent différentes créativités. Je ne pouvais même pas imaginer qu'à Bukavu, qu'il peut y avoir des gens comme ça. Mais je suis en train de voir qu'à Bukavu, il y a des talents, sauf qu'ils n'ont pas de gens pour les soutenir.
Un moment captivant qui mobilise la population autour des talents locaux et ceux venus des Goma et du Burundi voisin. L'un des organisateurs, Engele Salomumba, dit DJ Gate.
L'objectif pour la Foire internationale des arts et créativité, c'est l'artiste doit vivre de son art. Cette idée, on l'a depuis 3 ans et on voulait un événement qui peut réunir tous les artistes avec tous les domaines confondus. Tout le monde se retrouve à un même endroit pour partager un moment et pour parler de leur domaine.
Concours de danse, poésie, humour, défilé des modes, exposition des œuvres d'art, de paniers, des bricoles, dessins et peintures et d'autres objets fruits de la créativité ont été bien appréciés par le public sorti nombreux. Janosch Perler est un cinéaste suisse intéressé par la musique traditionnelle à l'est du Congo.
C'est tellement beau de voir qu'il y a tellement de jeunes artistes qui sont ici et puis qui ont vraiment le grand envie de produire, de faire quelque chose. J'ai vu de la danse. Je pense qu'il n'y a pas cette énergie qu'il y a ici. Et ça, c'est beau, quoi. Il y a les gens, ils sont tellement dans leur truc.
L'occasion donnée aussi aux artistes de partager leur expérience entre artistes, notamment sur scène. Thomas Lusango, responsable de Ndaro Culture, a aussi fait une prestation.
Ce que Ndaro apporte, c'est son expertise et son show live qu'on appelle Oui. Weekend Zulu. Le message fort, c'est que nous devons lutter ensemble. Aussi avec Ebola, nous devons lutter ensemble. Et aussi, ce que nous pouvons présenter au monde entier, c'est ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est notre musique des racines.
La foire est une initiative de la jeunesse active Jena avec d'autres organisations partenaires. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Baby.
partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Harold Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.